Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview. Aujourd'hui, nous recevons deux personnes au studio et une aussi au téléphone, à commencer par Jade Massa. Bonjour.
Bonjour.
Et puis accompagnée donc de Michael Gabriel.
Bonjour.
Bonjour. Et au téléphone, nous sommes en compagnie de Sébastien Louche. Bonjour. Sébastien Louche, donc vous êtes secrétaire de l'association Vivre, Respirer, Se Déplacer entre Tricastin. Vous êtes ici pour nous parler aussi de votre implication dans ce mouvement du collectif de défense des riverains du lieu dit Les Peupliers. Pour cela, nous avons également donc Jade Massa qui nous parlera et présentera peut-être cette problématique que vivent les habitants de ce lieu dit. Et puis accompagné donc de Michael Gabriel, qui sera là aussi pour nous parler de son apport dans ce mouvement. Alors, avant tout, quelle est cette problématique qui préoccupe les habitants de Pierrelatte ?
Alors, c'est un besoin de sécurisation donc de la route départementale 59, donc la route qui mène à Bourg-Saint-Andéol, la portion de route en fait qui est juste avant le pont de Bourg-Saint-Andéol. Donc, on a deux carrefours qui sont ici accidentogènes et qui ont un besoin de sécurisation, certes. Mais le problème qu'on a, c'est que le maître d'ouvrage, donc le département, a apporté un projet qui déporte une partie de la circulation sur le quartier, donc du lieu-dit Les Peupliers, juste au nord, donc qui va multiplier par 13 donc la fréquentation de cette route. Voilà, alors que d'autres projets sont possibles, nous, on apporte un projet alternatif qui permet d'éviter toute artificialisation des sols et expropriation aussi des riverains.
Alors, cette proposition date de quelle époque ? À quel moment ça a été proposé aux habitants ?
Alors, ça fait un moment, hein. Comme beaucoup de projets routiers, en fait, ce sont des projets du siècle dernier. Ça fait quelques décennies qu'on en parle, de sécuriser cette portion de route, notamment par rapport à trois morts, je crois. Trois morts dans une quinzaine d'années au niveau du rond-point Génac, enfin du carrefour Génac. Donc ça fait un petit moment, seulement en 2018, le département avait convié les riverains pour proposer plusieurs projets. Et là, en fait, il y a un an, suite à ça, on n'en a plus trop entendu parler. Et il y a un an, donc, l'enquête publique est tombée. Voilà, donc les personnes expropriées ne savaient pas en fait qu'elles allaient être expropriées. C'est à ce moment-là qu'elles l'ont appris.
Vous-même avez fait participer à cette enquête publique ?
Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai participé surtout à mutualiser, à coordonner un petit peu toutes les personnes pour qu'on se porte présent pendant les permanences de l'enquête publique. Ça a permis notamment aux dernières permanences d'avoir la commune qui s'est mobilisée donc à nos côtés pour s'opposer un petit peu à ce projet de déviation. Hein.
La population des Peupliers est de combien d'habitants ?
C'est plutôt large, en fait, parce qu'en fait, on est dans une zone particulière. Donc, on est dans une zone sur les berges, très proche des berges du Rhône, avec un plan de prévention des risques d'inondation. Donc, c'est plutôt étalé, puisqu'en fait, c'est beaucoup de vieilles fermes, hein, puisqu'on n'a pas le droit de construire hein, sur ces zones-là. Hein, ça, c'est préservé. Donc, la population est plutôt... je saurais pas dire, mais il y a du monde.
En fait, il y a environ une bonne douzaine de personnes qui vont se retrouver en expropriation ou qui vont se retrouver en situation de céder leur terrain, dont une personne dont le terrain est un terrain agricole. Et en fait, le département fait valoir donc un projet qui inclut le fait de compenser l'artificialisation de sol. Et cette compensation permet d'artificialiser justement cette parcelle agricole, entre autres, puisqu'il va y avoir également des portions de terrain qui appartiennent donc aux riverains qui vont se retrouver expropriés pour élargir hein, l'axe communal initial.
Il y a donc cet aspect de sécurisation hein, de ce secteur. Est-ce que pour vous, d'emblée, il y avait une réelle nécessité de cet apport? Et puis, on va parler ensuite de cette proposition topographique hein, de ce projet et auquel vous avez proposé un contre-projet beaucoup moins gourmand en terre. Et puis, vous allez nous expliquer aussi les raisons de ce rejet de cette proposition. Alors, peut-être commencer par Michael.
Oui, alors, je commence un petit peu par la fin. Mais ce qui est extrêmement paradoxal, c'est que le département fait valoir pour rejeter toute possibilité d'alternative à ce projet de sécurisation que personne dont personne ne conteste l'intérêt, en fait, hein, au niveau des riverains. Tout le monde est d'accord là-dessus, sur le fait qu'il y a une impérieuse nécessité de sécuriser les carrefours concernés, qui sont particulièrement accidentogènes. Mais c'est sur les choix qui sont faits qu'il y a un problème. Et donc, le département fait valoir que, comme il y a une zone humide qui se trouve au sud, et que il faut tenir compte eh bien, de cette zone humide, eh bien, le fait d'envisager une alternative, ça serait empiéter cette zone humide. Et donc, l'alternative serait quelque chose qui artificialiserait des sols. Sauf qu'en fait, ce qu'on a fait avec cette carte, c'est qu'on a tout simplement débunké cette rumeur, hein, parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat, c'est une rumeur. Et donc, le meilleur moyen de le faire, eh bien, c'est de représenter dans l'espace cette alternative.
Pour répondre à votre question, moi qui passe pas mal de temps sur la zone, oui, clairement, il y a un réel besoin d'aménagement. Et d'ailleurs, c'est ce qui a commencé à être fait avant. La route départementale 59 n'existait pas. Le chemin qui menait à Bourg-Saint-Andéol et le chemin du pont visé aujourd'hui par le département pour faire passer 13 fois plus de véhicules qu'actuellement. Et avant, pour la petite... Enfin, c'est intéressant aussi de prendre l'expérience de l'histoire. Ce chemin du pont a amené au pont de Bourg-Saint-Andéol qui a été détruit, et ce pont, le coût de la destruction de ce pont aurait permis de l'entretenir jusqu'à 2020. Aujourd'hui, nous, on cherche vraiment des accès de mobilité douce et sécurisée pour pouvoir nous déplacer autrement, et c'est vrai que ce pont aurait été très intéressant. Et du coup, à la construction de cette route départementale 59, on a un espace qui est immense au niveau du carrefour 59-13 et chemin du pont. Et donc, c'est à cet endroit-là, en fait, que le département nous a soutenu que le rond-point qu'il projetait au Robinson, entre la 823, le chemin du pont et la 59, ne passait pas. Donc, nous, on a dessiné, en fait, avec des professionnels urbanistiques, un projet pour démontrer que ça passe largement, en fait. Et du coup, ça pose beaucoup de questions, puisque, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus au sud du carrefour Le Robinson, sur la Calamelle, la 823, on a une extraction minière. Et donc, on se demande, en fait, quand on étudie du coup le projet, en fait, on se demande si l'intérêt n'est pas plus public, privé, pardon, plutôt que public dans le projet présenté par le maître d'œuvre, le département.
En clair, ce projet qu'il propose permettrait de diminuer le flux de circulation sur la départementale telle qu'il est là à l'heure actuelle, du transporteur qui assure les liaisons au départ et à destination de la carrière qui a repris les activités extractives en 2021. Ça permettrait de diminuer les flux de circulation de 25% à hauteur du transporteur qui s'est installé là hein, pour justement ses activités extractives. Du coup, ce report de flux va impacter directement les riverains qui vont se retrouver avec une circulation de l'ordre de 100 à 400 véhicules grand max. À la base, eh bien, ça va être de l'ordre de 4500, donc multiplié par 13 environ, hein, avec toutes les nuisances qui vont avec, donc la pollution, pollution sonore, visuelle, de l'air, etc.
Sébastien Louche, allô ?
Oui.
Vous êtes avec nous, donc vous êtes de l'association Vivre, Respirer, Se Déplacer en Tricastin. Quel est votre apport dans ce mouvement ?
Effectivement, l'association à l'origine s'opposent au projet d'échangeur autoroutier de la trempe provençale, donc sur la commune voisine de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il y a quelques liens avec cette question-là en termes d'impact de trafic, mais ce n'est pas le lien direct. Tout récemment, nous avons eu également l'occasion de dénoncer la révision du PLU de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux qui présente une consommation excessive d'espaces agricoles et naturels sans tenir compte du projet inutile de l'échangeur autoroutier de la Drôme provençale. Mais si on est sur les territoires voisins, on voit un point commun et des points forts en fait de lien entre notre contestation sur le projet d'échangeur autoroutier et le projet d'aménagement du secteur des peupliers, qui réside dans le fait que ces projets-là font l'objet d'un grand déficit de participation des populations dans leur définition aux différents stades et même, je dirais, du contenu aussi de la participation qui est proposée. Et également un entêtement des maîtres d'ouvrage qui ne veulent pas entendre les critiques, même constructives, de la part de la population. En plus, celle-ci formule des contre-projets. Et puis même, on dénonce l'entêtement des maîtres d'ouvrage lorsque ces critiques, elles sont portées par différents acteurs officiels qui sont consultés à différents moments du projet. Et donc c'est le cas de l'échangeur autoroutier, c'est le cas du PLU et c'est le cas de ce projet de rond-point qui a fait l'objet d'une recommandation du commissaire enquêteur, mais qui est traité par-dessus la jambe par le département, comme l'a expliqué Michael Ejade tout à l'heure. Et donc c'est ce qui fait effectivement le lien entre dans nos combats, c'est effectivement de pointer effectivement cette insuffisance de dialogue entre les maîtres d'ouvrage et la population.
Je reviens justement vers Jade. Votre sentiment, vous, ayant participé à cette enquête publique, est-ce que vous pouvez nous décrire le nombre de participants qui ont œuvré dans cette enquête publique ? Est-ce que vous avez eu vraiment le sentiment de ne pas avoir été écouté, tout simplement ?
Ah si, on a été écoutés et d'ailleurs on est venus de façon collective, normalement ce sont des rendez-vous individuels, on n'a pas trop laissé le choix au commissaire enquêteur tout en lui proposant bien sûr un moment d'intelligence collective où on se respectait, on n'allait pas se couper la parole et du coup on allait pouvoir vraiment réfléchir ensemble et comprendre aussi ce projet. Donc il y a eu du monde par rapport à notre mobilisation, mais en termes général, à part ça, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Et d'ailleurs, je crois qu'avant, les enquêtes publiques, on les appelait les enquêtes de doléances. Et puis les enquêtes publiques, en fait, ça permet quoi ? Ça permet en fait aux maîtres d'ouvrage de procéder aux expropriations.
Il y avait des élus parmi aussi les personnes qui ont répondu à cette enquête. Et est-ce que vous en connaissez leurs sentiments aussi sur ce projet ?
Eh bien oui, il y a eu des élus par notre mobilisation. Après, bon, c'est un peu particulier entre la commune, les élus de Pirlatte et le département. Les élus, on va sûrement les rencontrer peut-être ce samedi aux côtés de l'association des riverains du Rhône. Du coup, on en saura plus sur leur position. Mais on a l'impression que ça va un petit peu là où le vent les souffle, qu'ils marchent un petit peu sur des œufs. C'est assez compliqué. On ne sent vraiment pas écouté, en fait, parce qu'on ne sent vraiment pas écouté. On avait écrit une lettre collective, d'ailleurs, à la mairie de Pirlatte, qu'on a essayé de lui porter, auquel on a eu... On l'a loupé de 15 minutes. Il est parti avant l'heure de sa permanence. Donc, en fait, on n'arrive pas à parler avec nos élus et on ne se sent pas écouté. Il y a vraiment, on pense, quelque chose à faire au niveau du coup des mairies et notamment les municipales qui arrivent dans 2 ans. Ce serait vraiment intéressant de mettre en fait des outils d'intelligence collective et qu'on puisse vraiment se comporter avec soin, c'est-à-dire ne pas être dans un rapport de dominance, de propriété. Que continuellement, c'est pas possible. Et les gens, ça ne leur donne pas envie aussi de s'y intéresser dans ces cas-là.
Alors, je reviens un peu sur votre contre-projet qui permet justement d'utiliser l'existant actuellement sans pour autant empiéter sur ce qui existe au niveau des terres agricoles. Et d'ailleurs, cela permet, par rapport au projet présenté par le département, de préserver 4000 mètres carrés de terres agricoles. Hein.
Oui, c'est une surface qui est pas énorme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas eu vraiment d'enquête environnementale, en fait, hein, sur ce projet. Mmh. C'est pour autant pas négligeable. Pourquoi ? Parce que c'est une question de principe. Il y a une séquence qui est la séquence éviter, réduire, compenser et qui commence par le terme éviter. Pourquoi ? Parce que c'est... L'intérêt et l'enjeu, c'est d'éviter d'abord. C'est tout le sens de la loi, en fait, hein, et du droit de l'environnement. Et c'est en vigueur à l'heure actuelle avec l'objectif de zéro artificialisation nette. Donc, c'est connu, en fait, par le département. Et le problème, c'est que l'argument est dévoyé et retourné pour dire « Non, mais voilà, voyez le projet qu'on a. Le projet qu'on a est vertueux. » puisqu'il sécurise. Et prétendument, ce n'est pas possible de faire autrement. Voilà. Et c'est ça eh bien, que le projet alternatif contre et parvient à contrer. Alors, l'objectif qu'on avait, c'était de mettre en lumière cette alternative principalement auprès des habitants pour leur permettre de comprendre ce qui se jouait. Et en fait, l'objectif est atteint. Voilà, donc c'est très intéressant d'avoir eu ce processus qui a été très tardif de notre côté, puisqu'on a commencé réellement à se réunir là en début d'année, et puis on a eu connaissance presque par accident de la déclaration d'utilité publique, en fait.
D'ailleurs, je reviens un peu sur cette enquête publique. Est-ce que à ce moment-là, vous étiez présenté les projets, les plans de ce qui allait être aménagé ?
Ah, nous, non. Alors, tu parlais, c'est pas l'enquête publique, c'est l'arrêté préfectoral, en fait, qui va acter l'utilité publique. On y a eu connaissance, donc, 5 jours avant la fin du possible délai de recours gracieux. Donc, en 5 jours, on a dû écrire un recours gracieux. Voilà, merci, Michael. Donc, l'enquête publique, en fait, on n'en savait rien à ce moment-là. On a pris connaissance pour beaucoup, hein, parce qu'il y a aussi des maisons avec des nouveaux propriétaires. Enfin, voilà. Et donc, on a pris connaissance de ce projet-là au moment de l'enquête publique. Donc, déjà, rien que faire le lien, aller voir les gens, parce que nous, humains, on aime discuter et faire du lien quand on peut le faire. Mais ça prend du temps. C'est chronophage et énergivore. Donc, il y a toute une question de temporalité où on réfléchit aussi à où on va mettre notre temps. Est-ce qu'on va mettre notre temps, du coup, à faire lien, ou est-ce que on va... Moi, par exemple, dans mon cas, je suis auto-entrepreneur. Donc, ça prend du temps sur mon activité professionnelle. Que, voilà, j'ai certains aussi impacts. Mais je pense qu'on a beaucoup plus d'objectifs, hein, voilà, de bienfaits à réaliser si on arrive à organiser nos territoires pour des sociétés soutenables. Et du coup, poser aussi un mode de vie qui nous nourrit.
Et puis, pour revenir très rapidement sur la façon dont ça s'est déroulé quand même, cette enquête publique. J'ai pris connaissance de ce qui s'était passé sur le tard et je suis venu en soutien seulement à partir du début d'année, c'est-à-dire après que l'enquête publique ait été clos, et un moment où on attendait la déclaration d'utilité publique, ou du moins s'il y en a une, parce qu'on ne le savait pas. Et donc on a appris près de 2 mois après que la déclaration d'utilité publique était parue, en fait. Voilà, donc l'information n'était pas sortie, entre guillemets, du moins elle n'était pas ébruitée. Donc c'est pour ça qu'on a dû réagir vite, mais ça a été un moment d'intelligence collective important, d'autant plus important qu'il a permis de rattraper, entre guillemets, ce qui a été restitué par l'enquêteur public. Pourquoi j'en viens là ? Parce que, en fait, ce qui ressort, c'est que la majorité des avis, et les avis en eux-mêmes, n'ont pas été décomptés. C'est-à-dire que, simplement, l'enquêteur public relève que il fait quasi consensus, en fait, dans la population, que ce projet, eh bien, n'est pas celui qui est désiré. Pour autant, il va le valider, il va donner un avis favorable à ce projet. Pourquoi ? Parce que, en fait, il répond favorablement à l'objectif de sécurisation. D'accord. Sauf que la jurisprudence en droit administratif, pour ce qui est des déclarations d'utilité publique, est constante, elle est très claire. Ce n'est pas le seul enjeu qu'on regarde. C'est aussi les autres enjeux, notamment les enjeux d'ordre sociaux. Et cet aspect-là a été complètement passé, je dirais, au travers. Et donc, l'enquêteur public a quand même décidé d'apporter, c'est-à-dire le minimum possible, c'est-à-dire une recommandation d'examen de l'alternative. Recommandation d'examen qui a été, on va dire, traitée vraiment par-dessus la jambe par les services du département qui ont dit oui, de toute façon, ce n'est pas possible puisqu'on va devoir empiéter sur la zone humide. Mmh. Mais ils n'ont même pas, ils sont même pas entrés dans les détails, c'est-à-dire quelles sont les configurations pour lesquelles qui ferait qu'on devrait nécessairement empiéter sur cette zone humide. Mmh. Aucun argument en fait, rien, vide, creux.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5,
101.7,
FM.
Sébastien Louche, vous, quel est votre sentiment sur cette procédure qui semble un peu opaque, non ?
Pour aller dans le sens de Jade et Mickaël, bon, je ne parlerai pas d'opacité parce qu'elle répond à des règles administratives, mais par contre, elle est clairement insuffisante. En termes démocratiques et en termes même, je dirais, d'efficacité pour produire des projets qui répondent aux attentes de la population. La difficulté, c'est que les maîtres d'ouvrage pensent se réfugient derrière l'existence de l'enquête publique pour considérer que c'est la réponse à l'attente d'une participation de la population. Sauf que c'est bien souvent une procédure qui vient, comme a dit Mickaël, quelque part entériner un processus et un projet qui a été préparé de longue date. Et on a des maîtres d'ouvrage donc qui constituent un dossier pendant des années, pendant longtemps, et finalement une population qui doit réagir sur un projet dans un intervalle de temps de 15 jours ou un mois. Donc ça ne laisse pas la possibilité, notamment quand les dossiers sont un peu complexes, d'avoir une analyse fouiller, être en capacité de produire de la contre-proposition, mais tout ça amenant à dire qu'aussi l'enquête publique c'est tardif, c'est trop tard. La concertation, le travail sur les projets avec la population, il doit se faire bien en amont, bien avant, et ce qui n'est pas en fait forcément dans la culture des maîtres d'ouvrage, de certains des maîtres d'ouvrage. Et des fois, s'oppose effectivement à des intérêts privés qui ne sont pas ceux de l'intérêt général et de l'intérêt collectif. Et donc, c'est pour ça qu'il y a, qui est malheureux de se réfugier derrière uniquement le processus administratif à minima. C'est que tout le monde y perd, en fait, dans cette histoire, parce qu'on passe des années à construire un projet sans avoir répondu pendant ces années-là aux besoins attendus par la population et sur un projet qui va faire l'objet de contestations parce qu'on n'a pas été en capacité de pouvoir s'écouter et d'avoir réellement un dialogue constructif.
Jade, je voulais savoir, vous parliez tout à l'heure de cette zone d'extraction qui est un enjeu aussi au projet lié au département. Alors, est-ce que vous pouvez nous démontrer ou nous expliquer cet aspect-là ?
Voilà, bien sûr. Après, du coup, là, on touche au monde du BTP. Hein, voilà. Donc, sur les berges du Rhône, on a de grosses extractions, dont celle-ci. Hein, je ne sais pas si j'ai... Mais on n'a rien contre eux, hein, mais encore une fois, il faut avoir une réflexion collective sur combien de temps encore ça peut durer et pour quelles conséquences. C'est assez grand, c'est plutôt énorme même, puisque c'est la zone où on a beaucoup extrait, notamment pour le CAE. Donc on a d'énormes lacs, donc ce sont nos nappes hein, phréatiques qui remontent à cet endroit-là. Après, si on remonte plus vers le nord, il y en a aussi énormément, on a aussi carrément des barges. Donc c'est des espèces de rails en fait grillagés qui vont venir transporter la gravière, sans parler hein, de la pollution en fait de l'extraction des gravières. C'est vraiment un procédé qui est très très polluant et qui voilà.
Il y a un constat effectif de cette pollution par la population. sur leur environnement.
Au niveau de l'eau, on côtoie des personnes qui travaillent surtout sur le sujet de l'eau. Au niveau de l'eau, on parle de polluants éternels, en fait. On arrive à une situation au niveau de l'eau. L'eau est un cycle fermé. Donc, entre l'agriculture intensive plus les industries polluantes, on est à un stade aujourd'hui où, globalement, notre eau est critiquement polluée par aussi des choses qui, parce que les polluants éternels, des molécules des fois en créent de nouvelles qu'on ne recherche même pas.
Alors, quelle est votre demande de toutes ces associations et de ces habitants à l'heure actuelle? Est-ce que vous avez une réponse? Vous attendez au moins une réponse, puisque vous avez envoyé justement ce contre-projet qui a été rédigé par M. Léo Piala pour le collectif des habitants. C'est un envoi qui a été opéré. À quelle date ça a été envoyé?
Alors, le recours gracieux a été envoyé le 25 mars. On a réalisé une conférence de presse qu'on avait imaginée avant de savoir, de connaître, en fait, de prendre connaissance de l'arrêté préfectoral qui a mené jusqu'au recours gracieux. Donc, la conférence de presse a eu lieu le 4 mai. Ensuite, c'est à ce moment-là, entre le recours et la conférence de presse, qu'on a commencé à dessiner une projection de rond-point. Donc là où il y a la place, comme je disais tout à l'heure, là où on a construit la RD 59 et où il y a 54 mètres de largeur. Donc on nous dit qu'un rond-point de 17 mètres de diamètre, ça passe pas. donc à la conférence de presse, on avait ce premier dessin. Et donc, suite à la conférence de presse, on a pu être en relation avec un professionnel qui a pu terminer la projection d'une version qui évite tout projet d'artificialisation et toute expropriation de riverains, en laissant en l'état, juste en adaptant les carrefours et surtout en évitant les tournées à gauche, puisque c'est ça qui est très dangereux, en fait. C'est quand on va venir tourner, quand on est sur la route départementale et qu'on veut sortir et tourner à gauche, donc la traversée. Et puis, pour y rentrer, c'est pareil. Nous, on attend quelques minutes avant de pouvoir rentrer sur la route départementale 59 au niveau du carrefour.
Sébastien Louche, quel est le rôle ou l'action de Vivre, Respirer, se déplacer en Tricastin? Et qu'est-ce qui fait écho chez vous par rapport à ce qui se passe au Peuplier?
Ce qui fait écho avec la bataille de ce qui se passe au Peuplier, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce que vient de redire Jade, c'est la capacité, en fait, ou l'incapacité, en tout cas, dans l'état actuel, des maîtres d'ouvrage à écouter une expertise citoyenne qui peut s'exprimer et de concilier leur calendrier avec cette expertise citoyenne. Et qu'aujourd'hui, au 21e siècle, pour répondre à des enjeux comme ceux de la sécurisation routière, mais aussi à ceux de la préservation des espaces agricoles, comme ceux du développement des mobilités alternatives à l'autosolisme, on a besoin de l'intelligence collective, on a besoin de l'expertise citoyenne, on a besoin de l'expertise de l'usager pour mettre en place les projets qui soient les plus adaptés possibles. Et c'est ce qui fait, nous, notre regard en fait sur ce projet et le soutien qu'on apporte aux riverains des Peupliers, ce qui fait le commun entre leur combat et notre combat contre les changeurs autoroutiers ou pour la défense des terres agricoles sur la commune de Saint-Paul-sur-Château.
Voilà, c'est en quelque sorte l'illustration de ce qui se passe sur d'autres endroits. Et pour cela, vous avez aussi des liens avec d'autres structures associatives. On peut parler de l'Association des riverains du Rhône, Noix de Tempo, on vous en parlerait un peu. Et puis, surtout, la déroute des routes. Alors ça, certainement, c'est une structure référente aussi à ce type de situation.
Alors, si je peux juste ajouter une chose par rapport à la pollution qu'engendrent donc les activités donc de carrière, il faut bien voir que ça rentre dans un schéma global de production du béton, entre autres. Et donc ça va nourrir des cimenteries, c'est en fait l'industrie de façon globale qu'il faut voir et pour comprendre les impacts sur l'eau et les cycles de l'eau, notamment sur les pollutions. Deuxième aspect important pour ce qui est des mobilités. On a un projet qui est porté là par le département Il y a d'autres projets qui sont portés par le département, dont par exemple les sublimes routes du Vercors. Quel est le point commun entre ces différents projets? On a une vision en fait des mobilités qui est une vision qui est héritée en fait du siècle passé. Comme le souligne Sébastien Louche, en fait, il s'agirait d'ouvrir les imaginaires, de reprendre la main, de reprendre le pouvoir sur les choix que l'on fait pour les mobilités. En l'espèce, ce qui se passe là, sur le lieu dit Les Peupliers, c'est une illustration de cette reprise en main, de cette prise de conscience du fait qu'on peut faire politique, qu'on peut faire cité, qu'on peut faire police, et que l'on peut se réapproprier, en fait, tout simplement, les questions qui concernent le quartier, qui concernent, en fait, les choix qui sont pris par des personnes qui, soi-disant, connaissent mieux les choses, mais qui, en réalité, dans les faits, ne le connaissent pas mieux. Et les riverains du Rhône, par exemple, ce qu'ils ont apporté dans cette mobilisation, c'est leur expertise pour montrer que, attention, le fait de déblayer d'un côté pour remblayer de l'autre, ce n'est pas neutre dans une zone d'expansion des crues. Il va y avoir des mouvements tels que ceux qui ont été constatés, observés en 1993. Ça a été documenté à travers un journal télévisé d'époque que l'on a fourni avec le recours. D'ailleurs, Léo Piala a été mandaté par le collectif. Ce n'est pas lui qui a dessiné le contre-projet. Là, ça a été une œuvre collective, ce dessin. Mais voilà.
Avec quand même une connaissance de la voirie.
Ah ben oui, avec une expertise venant de personnes qui travaillent en tant que géomètres. Donc non, ça a été pas fait n'importe comment. Voilà. Non, ce qui a été proposé au département et à la préfecture, c'est quelque chose qui, sans jeu de mots, tient la route. C'est après la différence, c'est qu'est-ce que l'on fait des routes ? Pourquoi des routes ? Quand je dis pourquoi, je pense principalement aussi aux mobilités douces. Quel choix fait-on ?
Oui, je voudrais savoir, est-ce que vous avez une connaissance de projets dans le temps sur des développements d'industrie ou de zones d'activité qui serviraient peut-être à prétendre justement à la création de ce rond-point.
Ben oui, ben là on fait le lien justement avec la coalition de la Déroute des Routes. Hein. La Déroute des Routes, ça, elle compte plus de 55 collectifs et associations en son sein. Elle a vu le jour en 2022. Donc ces 55 collectifs sont âgés pour certains. Donc il y a une expérience plutôt intéressante. Met en lumière, après avoir documenté toutes ces luttes sur les projets routiers, les liens en fait qu'il y a entre le libre-échange, les routes, les entrepôts logistiques. En fait, quand on a une route, c'est un petit peu en fait une infrastructure coloniale. C'est autour, du coup, toutes les terres agricoles vont être mises en danger puisqu'elles vont être visées par l'artificialisation, l'extension de l'urbanisation. Comme le rappelait d'ailleurs Sébastien Louche, on a un exemple concret à Saint-Paul-Trois-Châteaux. C'est juste hallucinant. On devrait diviser par deux l'artificialisation qu'on a faite de 2011 à 2020 sur, du coup, la décennie actuelle. Il nous annonce 17 hectares de zones artificialisées pour cette décennie. En comptant le projet d'échangeur autoroutier, on est à 50 hectares. Donc, waouh, enfin, je veux dire... Voilà, et donc ça met en lumière en fait que, encore une fois, ce sont des intérêts privés, puisqu'en fait il y a des actionnaires, ce n'est pas de l'argent qui va revenir dans la poche des Français, c'est toujours pareil, en fait c'est une majorité qui trinque pour une minorité. Et cette minorité, c'est les acteurs du BTP, des carrières, Vinci, par exemple, je prends un exemple, Vinci a multiplié, pas que Vinci, pardon, les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont multiplié par 5 leur chiffre d'affaires des sociétés entre 1990 et 2020.
Voilà, là on tombe sur un autre aspect. Je voudrais revenir sur Natempo. Oui. Vous m'en parliez, c'est une association qui s'est créée en réaction de ce qui se passe.
Alors Nature et Tempo, c'est une association, une petite association donc tricastine de Saint-Paul-Trois-Châteaux qui a pour objectif en fait de remettre du sens sur trois axes, c'est-à-dire l'art, qui est un réel biais pour nous pour faire un lien, le terrain, donc les terres, l'eau, voilà, l'humain, donc tout ce qui est gouvernance participative, communication non violente, intelligence collective, voilà, donc on agit pas mal sur ça, et donc le but de Natempo, donc c'est une petite association, l'idée c'était qu'on soit peu et qu'on aille loin et vite par ce biais-là qui est associatif, voilà.
Sébastien Louche, qu'est-ce que vous prévoyez pour les temps prochains autour de cette problématique?
Autour de l'opposition en fait au projet d'échangeur, on a un autre en parallèle un autre volet qui est la promotion justement des mobilités douces. Donc ces derniers temps, on a appelé les entreprises, les administrations et les associations du territoire à participer au challenge mobilité organisé par la région Rhône-Alpes. C'est aller au travail mardi 4 juin différemment que en voiture. Donc ça veut dire à vélo, à pied, en voiture, en covoiturage, en transport collectif. Et donc, mardi, on organisera deux vélobus au départ de Saint-Paul-Trois-Châteaux en direction du site nucléaire et en direction de la gare de Pierre-Latte pour accompagner les personnes qui voudront aller au travail à vélo et puis aussi pour réclamer la mise en œuvre du schéma directeur cyclable dans les plus brefs délais, même s'il faudra du temps, mais il faut s'y attaquer tout de suite, et pour réclamer aussi un maximum d'intermodalité autour de la gare de Pierre-Latte. Et puis, on reviendra très vite aussi sur l'actualité du projet d'échangeur autoroutier, parce que c'est pas parce qu'effectivement, dans l'actualité, on porte d'autres sujets qu'on oublie l'objet de notre, j'irais, combat principal. On ne s'endort pas, et on va montrer qu'on est toujours déterminé à obtenir l'abandon de ce projet inutile.
On peut connaître aussi toutes ces informations sur Internet. Je suppose que vous avez mis en lien sur quel type d'ailleurs. Comment peut-on trouver votre association et de vos actions?
Eh bien, on a une page Facebook Nature et Tempo, Association Nature et Tempo. Voilà. Et après, on a une adresse mail aussi et un numéro.
Le numéro, je le indiquerai si vous le souhaitez sur la page de l'émission, hein, sur le site.
Oui,
et l'adresse mail, on peut peut-être l'indiquer quand même.
C'est Nature et Tempo avec une liaison, le tiré du 6 entre Nature et Tempo, @mailo.com.
En tout cas, merci beaucoup Sébastien Louche au téléphone, Jade pour votre présence ainsi que, oui.
Oui, si je puis ajouter, oui. Notamment par rapport à la déroute des routes, donc il y a un appel qui va se passer de 17 juin au 24 juin, notamment sur le sujet des routes. Et donc là, le thème, c'est l'après-route. Donc vous êtes invités tout un chacun. Donc il y a une carte sur le site de la déroute des routes à rejoindre ces mobilisations. Nous, on prend la température jusqu'à samedi et on aimerait potentiellement ouvrir les portes Drôme-Ardèche, les berges du Rhône pour faire du lien et faire de l'intelligence collective et partager de bons moments entre nous.
Et pourquoi pas faire convergence entre différentes luttes, dont aussi les sublimes routes du Vercors.
Tout à fait.
Michael, Gabriel, pareil aussi pour votre venue au studio de RDWA pour nous parler donc de ce projet d'aménagement routier et de sécurisation d'utilité publique, entre guillemets, au terrain des Peupliers sur la commune de Pierre-Latte.
Merci.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Merci de nous avoir aussi.
Au revoir.
Merci beaucoup.
As she said, go.